Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce podcast, après cette petite introduction, je vous propose de rencontrer Jo-Augustine pour parler de son livre « Assisi, il faut souffrir pour être française ». J'ai découvert Jo-Augustine, autrice, humoriste, parolière, entre bien d'autres activités et talents qu'elle vous décrira elle-même, lors de la sortie de son premier livre, un excellent recueil de nouvelles qui s'intitule « Neuf histoires lumineuses » que j'avais présenté sur sosweetplanet.com. Dans son nouveau livre, donc « Assisi, il faut souffrir pour être française », toujours aux éditions Présence africaine, Jo-Augustine propose une fiction inspirée par des événements et réflexions tirées de son propre parcours et de celui de femmes racisées qu'elle a interviewées. Au travers de sa vie quotidienne, la narratrice Sissi Lama nous offre une bonne paire de verres correcteurs, histoire de bien voir les détails qui, habituellement, nous échappent, le tout porté par une écriture désinhibée, des analyses au scalpel, beaucoup d'autodérision et un humour décapant. Ce livre est sa lettre d'adieu à la France après 16 ans de tentatives de vie commune. L'interview qui va suivre vous propose d'en savoir un peu plus. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des parasites et crachouillis, ce n'est pas un mauvais contact dans votre appareil, mais un problème de son qu'exceptionnellement nous avons eu lors de l'enregistrement. Malgré plusieurs interruptions, nous n'avons pas réussi à en identifier la cause et le lendemain, l'enregistreur et ses micros refonctionnaient normalement. J'ai rencontré Jo-Augustine mi-juin avant qu'elle ne parte comme sa narratrice s'installer définitivement au Canada. Elle m'a donné rendez-vous dans le cadre bucolique d'un petit jardin du 14e arrondissement de Paris. Jo-Augustine, bonjour.
Oui. Bonjour Anne, ça va?
Ça va.
Ça va trop chaud?
Ça va. Jo-Augustine, je vais te laisser te présenter parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi, je pense.
Ah, vas-y. Hein, comme dans les entretiens d'embauche. Jo-Augustine, Pakistan, autrice et humoriste de l'intersectionnalité. Autrice pour la littérature, la musique, l'audiovisuel, la bande dessinée. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le stand-up, ouais, et la révolution. C'est dans un but d'intersectionnalité, de féminisme afro-féminisme intersectionnel pour lutter contre le patriarcat blanc, cis-hétéro-capitaliste. Donc pour lutter contre la misogynie systémique, le racisme systémique, les LGBT-phobies systémiques aussi, l'hétéronormativité systémique, le classisme, le validisme, contre les violences dites systémiques.
You. Heureusement, je t'ai laissé te présenter. Alors, on se rencontre pour parler de ce livre « Assisi, il faut souffrir pour être française ». Tu avais déjà publié un premier livre, aussi aux éditions Présence africaine, qui s'appelle « Neuf histoires lumineuses », que j'ai adoré. Et tu publies, toujours aux éditions Présence africaine, donc ce... Comment tu l'appelles? C'est un roman? On peut l'appeler un roman?
Roman autobiographique, une fiction autobiographique.
Autofiction?
Ouais, de l'autofiction. Quelque chose d'assez hybride. Un essai.
Oui, il y a un peu de tout ça dedans, c'est vrai.
Un journal de bord.
Et en fait, page 208, j'ai trouvé que tu le présentes très bien, toi-même.
Bah, c'est Sissi qui le présente dans la page 208.
C'est Sissi.
Elle a pris le temps.
Sous ta plume. Donc voilà, c'est l'histoire d'une Camerounaise arrivée en France à 15 ans et qui s'étonne 14 ans plus tard de ne toujours pas se, trois points de suspension, sentir, entre guillemets, française, alors qu'elle a un passeport français. Elle se demande à quoi c'est dû et interroge d'autres Françaises racisées autour d'elle. Et pendant les interviews, elle a des flashbacks de sa propre vie. Tu as eu ton baccalauréat avec une mention très bien.
Ouais.
Tu as fait HEC, j'insiste sur le fait, parce que tu en parles beaucoup dans ce livre.
En fait, là, tu vérifies, parce que là, c'est ce que Sissi a fait. Tu vérifies,
c'est ce que Sissi a fait, oui.
Quelle est la part de Sissi, quelle est la part de Jo-Augustine.
Mais toi aussi, tu as eu ton bac avec mention très bien.
Moi aussi, j'ai eu mon bac avec mention très bien.
Et toi, tu n'as pas fait HEC?
Si.
Et donc, tu as obtenu ce prestigieux diplôme. Mm-hmm. Et malgré tout ça, malgré des innombrables efforts que tu décris dans le livre pour Sissi, donc malgré tous ces magnifiques efforts pour répondre à tout ce que l'on pouvait attendre de Sissi, les portes des entreprises sont restées désespérément fermées. Et au travers du témoignage de Sissi, donc, qui suit sa vie quotidienne, et des témoignages des femmes racisées. Je voulais te préciser, j'ai pensé que ça t'intéresserait, que mon ordinateur a mis des petits pointillés rouges sous racisé pour me signaler que ça n'existait pas, que le mot n'existait pas.
Je le lui ai appris.
Oui,
mon ordinateur Drill, qui porte son nom dans le bouquin d'ailleurs.
Donc, ces témoignages que tu as recueillis, mais tu les as vraiment recueillis, ces témoignages-là, c'est pas de la fiction.
Exactement.
Et donc, on suit de très près au quotidien tout ce que peut vivre, ce que peut endurer une femme racisée en France. C'est très instructif pour les personnes non racisées. Les autres ont déjà vécu ça, connaissent déjà ça, peuvent s'y retrouver, mais...
En fait, non, pas vraiment. C'est ça le truc. Au début, tu le vois pas, même si tu le vis. C'est comme ça que je dis pareil pour les femmes. Donc, quand on écrit quelque chose de féministe, on se dit pas, ouais, les femmes elles savent déjà tout ça, mais en fait non, c'est tellement dans ton quotidien que tu t'en rends même plus compte.
Oui,
c'est quand tu le vois exposé comme ça que tu vois que, ah merde, il y a un problème et c'est inadmissible. Mais quand c'est juste toi, tu te dis, allez, il y a pire dans la vie, etc. Donc, non, c'est vraiment pour la prise de conscience des personnes concernées d'abord, et je suis contente que les personnes blanches le lisent et en parlent autour d'elles.
Donc c'est très instructif pour les personnes non racisées, mais je me demandais si ça avait été instructif pour toi, en fait, de collecter tous ces témoignages.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as appris, toi, au travers de...
En fait, il y a même des choses que je ne savais pas. Tu sais, c'est comme quand tu coaches une personne et que tu dois écouter la personne, et c'est quand elle dit quelque chose que tu te rends compte que tu n'es pas d'accord avec ça, mais non, elle a tort de se flageller comme ça. Alors que tu fais exactement la même chose, tu avais dit la même chose la semaine dernière, mais c'est juste le fait d'entendre une autre personne dire la même chose, en fait, que voilà. Donc il y a d'une part des choses que je ne voyais pas de la même façon parce que je le prenais pour moi, sur moi, et d'autres choses, c'est parce que je n'étais pas concernée. Donc notamment, mon amie Albinos, par exemple, on pensait qu'elle était blanche, mais quand on voit son nom de famille, on s'attendait à voir débarquer une personne non blanche. Et on dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous étiez blanche? On pensait qu'elle était peut-être mariée et tout. Et bien oui, c'est juste quand tu n'as pas de mélanine, tu peux passer pour une blanche, quoi. C'est sûr, si tu défrises les cheveux, tu mets une perruque, voilà.
Tu croises des témoignages, pas que de personnes noires. Il y a une amie marocaine,
une amie métisse,
une chinoise.
Ouais, voilà, asiatique. Celle qui est asiatique, mère est-asiatique, père Afrique du Nord, elle sera racialisée asiatique toujours. Enfin, à partir du moment où tu as les yeux bridés, on ne va pas te dire, voilà. On va pas t'appeler arabe, même si j'ai pas déconstruit le mot arabe là-dedans. Je l'ai pris comme on me l'a servi en France, donc je suis pas allée chercher. C'est quoi les arabes, en fait, dans les vrais qui portent cette dénomination-là. Je suis pas allée chercher, peut-être dans un prochain livre. Ouais, tu découvres aussi même le rapport de classe. Enfin, franchement, dans ma SDF vie là maintenant. Il arrive, quand je change juste de vêtements, d'habillement, mes interactions avec notamment le personnel médical, c'est plus la même chose. Hein. Enfin, j'ai dû dire récemment à une dentiste que je viens de subir une obturation endodontique et je viens pour faire des couronnes. Elle a roulé des yeux comme ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que je viens, pourquoi exactement? Enfin, comme si... Déjà parce que oui, l'endodontie c'est cher. Non, un, ça se voyait pas que je pouvais me faire de l'endodontie. Deux, les mots qui sortaient de ma bouche ne doivent pas être de vrais mots pour elle. Ouais, donc le rapport de classe là, parfois, c'est même raconté aussi. Ça, c'est un événement récent que je suis en train de raconter, mais c'est raconté dans Assisi, comment Assisi, il faut souffrir pour être française. Ma rencontre avec ce médecin du travail, cette doctoresse du travail, quand je travaillais chez Biocop et que je devais faire une visite médicale. Le
mais
regard
ça,
a changé dès qu'elle a vu.
Ça, c'est réel, cette histoire?
Oui, bien sûr.
Raconte-le.
J'ai juste pas l'imagination
aller. Secondes. Donc, tu travaillais à Biocop. Et en fait, il fallait que tu ailles passer une visite médicale, comme tout employé qui, au bout d'un certain temps, au début, je ne sais pas, en entreprise.
Je travaille chez Biocop en tant que vendeuse polyvalente. J'ai mon diplôme d'HEC qui ne me sert pas à grand-chose. On me prend pour une menteuse en entretien. On veut toujours vérifier quand j'apporte l'original du diplôme. Comme mon ami Gaspard, il ne sait même pas où est rangé son diplôme. Je dois passer la visite médicale. Et dans le formulaire, on demande ce qu'on a fait comme études. Je dis HEC à la dame de...
Médecin.
Non, à la dame, la secrétaire là, secrétaire médicale. Mais elle dit, c'est quoi? C'est quelle fac? Je dis, c'est une école. Ben, finalement, elle met commerce. Et comme on s'est, ça a duré 3 minutes, on s'est embrouillé là. Pour, elle dit, mais je mets quelle fac? Fac de commerce? Je dis, ouais, mettez commerce. Apparemment, elle a mis plusieurs points d'interrogation à étude. Et le médecin me demande, mais point d'interrogation à étude, on n'est pas rempli. Je dis, j'ai mis HEC. C'est là alors que... Attends. Pardon. Et c'est là qu'elle découvre que je suis dans la pièce, quoi. C'est là qu'on voit que depuis tout ce temps, on ne te regardait pas. Et c'est comme quand tu découvres que la personne est célibataire depuis tout ce temps, tu vois, ok. Mais tu étais convaincue que voilà, c'est... Ben là, elle commençait à découvrir mon existence, réaliser ma présence dans la pièce. Là, nous étions deux personnes qui méritions d'échanger les idées. J'ai un cerveau disponible pour recevoir ses paroles. Et ouais, dans l'écriture du livre, tu te rends compte aussi que le rapport de classe, la France peut être encore moins bien quand tu es noir et pauvre que quand tu es noir et riche. Les interpellations policières, ce sera moins sur les hommes noirs qui travaillent à la défense. C'est pour ça qu'ils seront moins aussi conscients même de la violence même de la police en France. Tu les verras moins dans les manifs que dans les cités, dans les quartiers, parce qu'il y a ce rapport de classe-là.
Mais pour revenir à la femme médecin, en fait, elle t'a signé le papier ou pas au final? Parce que dans le livre, tu dis que par rapport au fait que tu
as fait cette HEC, j'ai dû arrêter.
Elle considérait que c'était pas ta place de travailler comme vendeuse dans une enseigne.
Ouais, elle faisait ça pour mon bien.
Est-ce que tu as eu des retours déjà depuis la sortie du livre?
Ouais.
Alors comment
tout
ça se passe?
Tout à l'heure, là encore, numéro inconnu. Donc ça fait bizarre de voir des inconnus qui t'envoient des textos. Qui dit que ça fait du bien et ça pique. Moi, je ne savais pas que ça piquait, parce que je sais que 9 histoires lumineuses, ça pique comme ça. Mais ça fait du bien et ça pique, comme le gingembre, quoi.
Et tu expliques bien comment le fait de commencer à te documenter sur le sujet du racisme t'a entraîné à prendre conscience de choses que tu ne voyais pas avant. Et plus tu en prends conscience et plus tu t'éloignes de ton monde d'avant, que ce soit tes amis blancs ou ta propre famille qui ne te suivent pas. Ouais. Parce qu'en fait,
Sayonara, bitches.
Même si tu leur donnes des bribes, toi, de tes avancées, ils ne font pas le même parcours que toi. Tu en es où aujourd'hui?
Dans la vraie vie?
Dans la vraie vie, par rapport à...
Par rapport aux amis, à la famille.
Une fois que tu as fait ce cheminement, par rapport aux amis, à la famille, qui n'ont pas fait le même cheminement.
En fait, je n'attends plus personne. J'ai eu mon rythme aussi, parce que je n'ai pas toujours été... je suis toujours en déconstruction, mais il faut aussi avoir cette volonté de déconstruction. Il y a des personnes qui ont la volonté, ça prendra plus de temps, mais il y a des personnes qui n'ont pas du tout la volonté, mais franchement, je ne vous attends pas. On se verra peut-être dans une autre vie, mais voilà, ouais, j'ai perdu pas mal d'amis et je les ai pas chassés, ils sont partis d'eux-mêmes. Je pense que quelquefois être fidèle à soi-même, c'est la recette pour attirer les personnes qui te ressemblent. Donc on est au... Regarde où je voulais vous donner rendez-vous, tu vois. Enfin, j'aurais pu choisir un café, 5 étoiles, où se rencontrent les grands écrivains, tu vois. Mais je ne m'y sens pas bien et je vais rencontrer des gens qui aiment bien se mettre dans ces cafés-là. Et après, je vais leur dire un jour, ah mais en fait, je n'aimais pas ce café-là, donc pourquoi vous me présentez à vos autres amis qu'on ne trouve que dans ces cafés-là? Mais en fait, je leur ai envoyé de mauvais signaux. Donc maintenant, j'envoie les vrais signaux, j'essaye d'être le plus proche possible de mon fundi. Voilà, de ma vérité intérieure, de mon cœur. J'essaie de vulgariser le fundi. J'essaie d'être le plus proche possible de ma vérité, de moi. Et si je vois qu'il y a un décalage, une dissonance cognitive, je dois vraiment être à l'écoute de moi, voir. Et là, tu es en train de te mentir à toi-même. Là, tu te crées de fausses excuses. Là, tu vois. Voilà. Et à partir de là, il n'y a plus le temps pour le bullshit. Et de deux, j'ai pris la décision de ne plus jamais gaspiller mon énergie sur ces questions qui sont très politiques, qui sont vraiment... Enfin, quand c'est ton vécu, voilà, c'est... Mine de rien, c'est de l'énergie mentale aussi. Ne plus avoir de débats sur le racisme avec des personnes non concernées par le racisme, de débats sur le féminisme avec des personnes non concernées par le féminisme, de débats sur les LGBTphobies avec des personnes non concernées par les LGBTphobies. Donc là, ça m'a fait gagner un temps fou. Et j'apprends maintenant à insulter les gens. Si ça me fait du bien, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, je me rapproche de son oreille et je lui fais une insulte crue à l'oreille et je souris et je m'en vais. Ça fait du bien, c'est de la violence, mais je viens de recevoir quelque chose et j'apprends à ne plus avoir à caresser mon bourreau que « Oh, mais j'essaie de te comprendre, tu m'as insulté, tu m'as fait quelque chose. » Voilà. J'apprends maintenant à être franchement violente et à ne pas me reprocher ça. Et ça doit être appris et désappris tous les jours. Je peux te dire à quel point c'est... À quel point on a été éduqué pour être poli. Moi, j'ai fait ça un jour. J'avais même pas insulté un gars. Je m'étais juste dit, la prochaine fois qu'un gars me fait ça, je vais essayer cette technique. Et je l'ai testé sur lui. Je me retrouve toute seule à Aubervilliers, à la sortie du métro. Et c'est la nuit, je ne connais pas le chemin. Je cherche sur mon téléphone où est-ce que je vais dormir, un nouveau lit. Et là, il y a un gars qui sort du métro. Il me dit, je suis sortie du métro juste pour toi, tu me plais. J'ai levé la tête de mon téléphone, je l'ai regardé. J'ai fait j'ai hurlé mais en le regardant dans les yeux. Juste ça, j'ai pas insulté hein. Parce que je partais du principe que il n'y a pas que les muscles dans la vie ou les armes, la folie fait peur. En fait, les gens ont peur des gens qui sont un peu voilà. Et les gens ne savent pas ce que tu peux faire quand les gens voient que tu ne peux pas maîtriser ta réaction. Voilà, il y a cette incertitude là, ils préfèrent s'écarter. Et donc le gars, quand j'ai crié comme ça, le gars, il l'a détalé, il a trébuché, il regardait derrière lui, si je le poursuivais, il courait encore. Et là, j'ai vu la terreur, je n'avais jamais fait peur comme ça à quelqu'un de ma vie, j'ai vu la terreur dans ses yeux et je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais oh là là, est-ce qu'il n'a pas eu trop peur? Est-ce qu'il n'a pas fait mal en tombant tout à l'heure? Mais après, je me demande, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on se... Regarde la charge émotionnelle des femmes. Je suis en train de m'inquiéter pour est-ce que je n'ai... Enfin, est-ce qu'il m'en... Enfin, je ne le connais pas, on s'en fout. Il aurait pu me faire quelque chose, on est seul là dans la nuit. On s'en fout. J'ai noté ma réaction. Ah, je m'en suis voulu, je lui ai fait peur. Ah, la prochaine fois, on ne s'en veut pas. La prochaine fois, on lui fait peur et on en est fier. Voilà. Et on enseigne aux autres. On balance les astuces comme ça aux autres.
Les Canadiens n'ont qu'à bien se tenir.
Exact.
Donc, tu es... humoriste, okay. Et l'humour est très présent dans ta façon de raconter les choses. Il y a beaucoup de dérision et d'autodérision et tu nous forces à sourire de choses assez tragiques quand même. C'est assez curieux d'ailleurs, moi je me suis surprise à sourire la semaine dernière quand j'ai lu ton livre
et je suis contente.
Ça met presque mal à l'aise en fait, le fait de se retrouver à sourire de choses dramatiques.
Moi je veux faire rire.
C'est drôle, c'est très drôle. Mais avec le recul, après, je vais te raconter sur quelle scène, par exemple. Je pense à l'histoire de ta tante qui se marie avec un Français blanc et qui veut se faire passer pour une Antillaise parce que c'est mieux que pour une Africaine. Donc, elle vous convoque avant et elle vous demande à tous de... elle vous dit, voilà, vous êtes Antillais puisque vous êtes ma famille, donc vous allez manger Antillais, vous allez danser Antillais. Et donc, vous vous réunissez pour préparer ensemble de quelle ville vous venez, de quelle île aussi des Antilles et tout ça. Et cet humour donne du recul à ta lecture des faits qui sont assez terribles quand même. Ouais. Parce qu'en arriver à renier sa propre identité pour se faire accepter de l'homme qu'elle aime et de la famille de cet homme. Et je me demandais qu'est-ce qui t'a attiré dans l'humour et qu'est-ce qui te donne envie de l'utiliser pour raconter des choses douloureuses. Est-ce que c'est parce que ça passe mieux, ça te débloque les esprits, qu'est-ce que...
Raconter des choses douloureuses, ça a été un objectif récent. Hein. C'est quand j'ai commencé à militer pour l'intersectionnalité, mais j'ai pas toujours été... J'ai eu une très longue période d'aliénation. Hein. Comme c'est décrit dans le bouquin, j'ai pas toujours été consciente du racisme systémique et de toutes ces violences systémiques. Et la vie se passait très bien. C'était ce qu'on appelle une imbécile heureuse. Donc, j'ai jamais voulu raconter des choses dures aux gens. Jamais. Ensuite, faire rire des gens, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Enfin, déjà depuis toute petite, quand j'étais pas toute petite. Moi, j'étais déjà arrivée en France. J'ai découvert les nuls et les inconnus au lycée. Et pour moi, c'est rire comme ça avec les collègues. Enfin, ton travail, t'es payé pour trouver des idées pour faire rire les gens. Enfin, moi, s'il fallait être payé pour quelque chose, ce serait ça. Franchement, je voulais juste m'amuser. je voulais m'amuser en travaillant. J'aime pas l'idée même de travailler, mais voilà, il fallait que je m'éclate, il fallait que je rigole. Donc je devais être dans le milieu de la comédie. Sauf que j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça pouvait être un vrai métier, que je pouvais être là-dedans aussi. Donc j'ai pas toujours associé ma carrière à de l'humour. C'est quand je me suis lancée véritablement dans une carrière artistique que je me suis dit on va faire de l'humour, on va écrire pour des humoristes. Parce que moi j'ai toujours tenu à être dans l'ombre. Je voulais écrire pour des dessins animés, drôles, des films drôles, je voulais écrire des choses drôles. Il se trouve que je ne sais pas faire de l'humour, pur humour. Je sais faire du dramédique. L'humour vient de la surprise. Donc le drame, l'humour. Enfin, il se passe un truc. Enfin, l'humour vient. C'est comme dans Neuf Histoires Lumineuses où l'humour, c'est pas une blague. Enfin, c'est juste la situation de merde là, qui est finalement cocasse.
C'est un ton, je trouve, que tu as, et le recul aussi par rapport aux choses.
Et ça, je le fais. C'est le truc que je fais le plus facilement. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est ça. Mais j'aspire même à terme à arriver à faire un truc sans violence. Je suis inspirée par la série Steven Universe, qui est vraiment un monde mais de paix et de bienveillance. Et mine de rien, ça ne vise aucun âge en particulier. Je suppose que c'est pour les enfants aussi, pour les adultes beaucoup. Il y a de l'intersectionnalité. Il y a du queer, il y a du transgenre. Le personnage s'appelle Steven Universe. C'est une femme blanche, lesbienne, qui a créé.
On peut la voir où ?
Avant, c'était sur YouTube. Moi, j'ai découvert sur YouTube, mais c'était pas légal sur YouTube. C'était des gens qui postaient tous les épisodes sur YouTube. Et là, on a effacé les épisodes que je regardais, donc je peux même pas voir la suite. Mais sinon, c'est une série Comedy Central. Et je pense qu'elle est traduite en français. C'est une collégienne française qui m'en a parlé, mais moi, j'ai entendu Steven Universe. Je me suis dit, c'est mort. En plus, moi, je pensais que c'était pour les fans de Star Wars et tout ça. Enfin, je connais toujours pas Star Wars et Star Trek. Ça se passe sur la Terre, mais les gens viennent d'autres planètes. Et je savais pas que ce serait mon univers, mais c'est tellement bienveillant. Et j'espère pouvoir continuer à apprendre à écrire. Et même, mine de rien, c'est aussi un travail mental, donc de guérison. Tu vois bien la progression. Tu vois la différence de temps entre Neuf Histoires Lumineuses et celui-là, non? Donc, tu vois, même entre Neuf Histoires Lumineuses et les premières nouvelles que j'ai écrites et les autres, histoire que j'ai écrite après la thérapie, on voit bien une évolution dans mon mental, dans ma perception.
Mais le ton est très différent.
Voilà. Donc je grandis moi-même avec ma façon d'écrire l'humour.
Pour revenir à cet humour encore, donc page 145, un petit passage qui me plaît beaucoup. Tu es allé passer un entretien dans une grande entreprise et tu dis « Je savais que j'allais rater leur fameux test de logique. De toute façon, les entreprises qui recrutent par des tests ne méritent pas des talents comme moi. » Ton ami te répond « Ben non. » Tu reprends, les gens qui réussissent leurs tests sont des gens qui réfléchissent de la même façon, ai-je rétorqué, plus enflammé en décelant son sarcasme. Moi, je ne réfléchis comme personne. Ce qui est bien, c'est que tu te poses quand même. Ouais. Ça pourrait anéantir ton estime l'estime de soi. Mais en fait, tu prends conscience que tu as une certaine valeur et que finalement, ça ne rentre pas dans les cases.
Ouais, exact. Et c'est pareil pour la France, là, maintenant.
C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est qu'en fait, en arrivant à la fin du livre et en sachant que tu vas partir à Toronto, c'est ce qu'on se dit.
La France est une entreprise qui ne mérite pas des talents comme moi.
Donc, lors de tes entretiens d'embauche, ta couleur reste plus importante que tes diplômes, systématiquement.
Ouais. Et tu as même dire la race, parce que la couleur...
La race ?
Ouais. La couleur, mine de rien... En fait, non, c'est une réalité de vie.
Bon, donc pour toi, on dit... La race.
Ouais.
Ok. Donc,
c'est comme si on me dit au lieu de ton handicap, ta situation, tu vois. C'est... non, c'est un handicap.
Lors de tes entretiens d'embauche, ta race, à ta demande, reste plus importante que tes diplômes. Tu avales pas mal de couleuvres. Même si les réflexions que l'on te fait ou les comportements sont clairement racistes, en fait, tu n'es pas en position de pouvoir te défendre. Bien qu'il y ait un mentor, je crois, qui t'ait encouragé à le faire. Et tu finis par postuler pour un poste de vendeuse, donc dans une enseigne bio. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui après toutes ces expériences-là ? C'est-à-dire que les diplômes, tous les efforts que tu as fait pour le monde de l'entreprise, pour tout ça, est-ce que tu as des regrets ? Ou finalement tu te dis, maintenant ce que je fais c'est plus épanouissant et j'ai plus du tout envie de revenir dans ce monde ?
Non, en fait, vu que c'est ta vie, tu vois. En fait, sans toutes ces expériences... Il n'y aurait jamais eu Jo-Augustine, la militante. Enfin, c'est juste ta vie.
Oui, parce que toutes ces expériences, ça aurait pu te rendre plus radicale, mais radicale dans un sens agressif et violent.
Oui, mais je suis radicale et agressive et violente. Hein.
Oui, et en même temps, tu dis que tu veux aller vers quelque chose de plus bienveillant et de plus apaisé.
Pour moi. C'est pour moi, en fait. Dans ma création. Parce qu'en fait, je veux vivre des histoires que j'écris et entrer dans ce monde-là et me faire du bien à une communauté. Enfin, voilà. Mais n'empêche que c'est juste peut-être mon côté, c'est ma personnalité aussi de ne pas être dans la violence physique franche. J'ai plus tendance à couper les gens de ma vie, de mon espace, mais à juste dire non, quoi. Voilà, et ça c'est radical. Ça, c'est... Là, par exemple, je fais aussi très attention, là, récemment. J'ai présenté mon livre dans une bibliothèque féministe, à Violette & Co. Ouais, c'est beaucoup de... Oui, lesbiens et féministes. Et mon livre, c'est de l'afroféminisme sur le vécu des femmes racisées en France. Les citations sont des rappeuses. Et là, dans le cadre d'un festival, qui c'était le festival Niofar, un festival décolonial, organisé par des mecs cis, bah, pour animer la présentation, la lecture de mon livre, on avait choisi un journaliste, un mec cis hétéro. Et juste... enfin, le gars me fait un caca nerveux parce que... J'ai dit non, je voudrais une femme racisée pour faire la présentation. Mais enfin, même, j'ai pris une femme racisée, une lectrice, une étudiante en littérature comparée. Et je suis très, très fière de mon choix et très contente du résultat. Et pour moi, voilà, je ne veux pas donner la parole. Enfin, je sais pas, c'est le pouvoir quand même. Là, on est dans une bibliothèque féministe. Je vais faire venir un mec, si c'est trop. Genre, il n'y a plus de femmes ici dehors pour faire, qui ont lu le livre, qui n'ont pas lu. Hein, parce que voilà, il n'y a plus de femmes, on va dire. Enfin, je sais pas, les gens voient bien quand on est dans des espaces sur l'antiracisme, voilà, ça va les choquer que ben, c'est un blanc qu'on a trouvé pour venir faire la modération, alors qu'avec tous les journalistes noirs ou racisés qui auraient pu, on va dire que non, j'en connaissais pas, personne, j'ai mis une annonce, personne n'est venu, ben, j'ai pris mon ami, quoi. Ben voilà, on va s'énerver, mais là, quand je dis que ben, je veux une femme racisée, enfin, est-ce que les gens se rendent compte quand même que, mine de rien, on ne peut pas dire quelque chose et faire le contraire, enfin, quand ce sera la personne qui va modérer la lecture, qui va donner la parole au public, qui va lancer le ton. Mais si la personne n'est pas concernée par l'oppression, ne sait même pas, il va donner la parole à un mec cis sans même se dire « Ah, mais pourquoi je donne la parole à un mec cis d'abord ?» On ne s'en rend pas compte. Et ce ne sera même pas le même rapport dans la discussion, en fait. Là, on parle de meuf à meuf, on parle de c'est quoi être française ici, enfin, c'est quoi être une femme en France? Et lui, il ne sait pas, on n'a pas besoin de vivre l'oppression pour s'identifier, mais pour créer ce rapport de cette liberté de la parole, toutes ces situations pour lesquelles on n'a plus besoin d'expliquer, de développer. Donc, on ne va pas tilter pareil à certains passages. Pour moi, c'est une question aussi de pouvoir que tu donnes. Donc là, j'étais en train de dire, d'envoyer à mon public. Je suis en train de donner dans une bibliothèque lesbienne et féministe du pouvoir à un homme cis hétéro. Enfin, je sais pas un peu pourquoi à chaque fois. J'aime beaucoup le sarcasme. Je m'inspire beaucoup de Sheldon Cooper, un personnage dans la série The Big Bang Theory, à qui on faisait remarquer que ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu dis pas de gros mots. Et il répond, en fait, j'ai remarqué que tu n'as pas besoin de ça pour faire du mal aux gens. Donc, je pars du principe que pour blesser quelqu'un, tu peux faire une phrase sans aucun gros mot. Voilà. Même si mon objectif, c'est de faire du bien aux gens, je ne m'énerve plus. Je ne sécrète plus de cortisol. C'est pas bon pour mon cerveau, pas bon pour mes neurones. Et ça ne produit rien. Quand je crie, mais ce n'est pas sur quelqu'un. Je ne te laisse pas te savoir responsable de ma colère actuelle, là. Et je pars toujours du principe maintenant tu vois la phrase qui est sortie après MeToo, là, « Take your broken heart, make it into art. » Je recycle systématiquement toutes les situations négatives que j'ai vécues. Donc, je ne veux pas avoir souffert pour rien. Toutes les paroles que j'ai entendues à table, là, ça va finir quelque part. Ça va finir sur scène, ça va finir dans un roman. Tu vas le payer tôt ou tard. Tu vois, c'est pas que tu vas payer. Donc je vais gagner de l'argent à partir de là tôt ou tard. ça va faire du bien aux autres, ça va produire autre chose. Mais je ne vais pas souffrir dans mon coin et je ne vais pas venir, je vais pas souffrir devant toi. C'est-à-dire, je ne vais pas venir te confronter dans le one-to-one pour te dire, ouais, il faut qu'on en parle. Franchement, je n'ai plus le temps pour ça. On me le reproche souvent, de ne pas prendre le temps, de la confrontation, enfin voilà. Ouais, j'ai plus le temps de chaque fois, avec chaque personne qui me fait du mal, de s'asseoir et réparer les choses, quoi. Il y a une fois, j'étais invitée dans un colloque à Mulhouse. J'étais la seule personne qui n'était pas dans la recherche, qui n'était pas universitaire. Et j'étais au fond de la salle avec ma capuche. Je n'intervenais que le deuxième jour. Toute la première journée au fond de la salle, les gens me regardaient étrangement. Quand on distribuait le plan de Mulhouse à tous les intervenants, intervenantes, c'est surtout eux. Moi, quand je tendais la main, on me sautait, on allait poser sur la table. Quand je les suivais, maintenant, c'est ça que je dis comme phrase, jusqu'à l'hôtel où tout le monde était hébergé, pour le check-in, on me regardait avec méfiance. T'es là pourquoi ? Toutes ces choses, je n'ai pas répondu, je n'ai pas, tu vois, j'ai juste gardé pour plus tard. Il y aura une réponse. Je savais que j'avais un papier le lendemain. La réponse était l'introduction au papier. Et les personnes qui se sentent morveuses, se mouchent, elles étaient toutes dans la salle et... Je suis du genre à regarder dans les yeux pendant que je... Mais je suis sur scène maintenant, je suis en représentation et je ne suis plus dans dans l'ascenseur avec toi où je dois maintenant... Je me pose la question à moi et pas à elle, tu vois, non. Je te fais une phrase, un paragraphe qui introduit bien le papier que j'allais faire parce que l'exemple, c'est mon vécu. Voici ce que j'allais vous raconter. Ce qu'on m'a fait vivre hier, là, c'est ça que j'allais vous raconter. Et ça... Pour moi, ouais, ça reste de la violence parce que je ne cherche pas le dialogue. Parce que pour moi, ces personnes ont déjà parlé et je ne fais que répondre. Ces personnes m'ont déjà fait subir leur violence, mais je ne fais que leur envoyer ce que j'ai. Mais de ma façon à moi, ma manière à moi, ça peut être sur scène, elles peuvent se retrouver dans le bouquin, se reconnaître. Même si c'est pas, je n'écris jamais en me disant « vous allez vous lire ». C'est même pas à vous que je pense. Je sais que j'écris en me disant, en fait, quelquefois, j'oublie même que j'ai mentionné certaines personnes et je reçois des mails incendiaires derrière. Oui, ça m'est arrivé. Des mails pas. Et j'avais vraiment complètement oublié. Bref.
Et ton livre, donc, devait s'appeler On est en France ici.
Le livre de Sissi Lama, oui. Sissi Bernadette Lama, excuse-moi, s'appelle On est en France ici. C'est ce livre qu'elle prépare. Et elle va à la rencontre de... En fait, ouais, comme je dis, c'est un roman dans le roman. C'est vraiment un roman qui raconte comment j'ai écrit ce roman.
Et en fait, au départ, tu expliques que tu as envie de lâcher tout ça, de laisser tout ça à la France avant de partir. C'est ta lettre de rupture. Est-ce que ça t'a soulagé de balancer tout ça sur le papier ? Parce que moi, j'aurais accumulé tout ça. Mmh. Déjà, les propres histoires que tu as accumulées, plus celles que tu vas chercher des autres.
Ça m'a soulagé.
Comment tu te sens aujourd'hui, là, avant de partir, aujourd'hui, maintenant que le livre est sorti ?
Là, je suis en thérapie. Quand j'ai commencé le livre... c'était en 2016, comme je dis les dates qui sont dans le bouquin. J'ai commencé ça plutôt fin août 2016. Dans le bouquin, je dis 18 septembre 2016. Et je venais de vivre ma première rupture amoureuse avec une personne qui est née le 18 septembre, pas 2016. Et là, c'était un chamboulement dans ma tête. Et j'ai découvert comment mon cerveau réagit à la peine de cœur. Enfin, en fait, j'avais jamais vécu ça. J'ai commencé à comprendre les chansons, tout ça là, tu vois. Les films, tout. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir. Tu vois, c'est le genre de... Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de... Il y a des médicaments pour tout, pas pour ça. Bon, apparemment, maintenant, on vient de trouver une molécule là pour fabriquer une molécule contre le chagrin d'amour. Mais moi, j'avais imaginé le doloprane. Bon, c'est l'été dernier avec mon récent chagrin d'amour que j'ai imaginé le doloprane. Mais mon cerveau était dans tous les sens. Il a été très productif. Donc, j'ai écrit le quart du livre dans les 2 semaines qui ont suivi la rupture. J'ai acheté l'ordinateur le lendemain de la rupture. Donc, j'étais en mode blabla. J'ai fini d'écrire le livre le 31 décembre 2016 à minuit heure de Los Angeles. Je ne voulais pas entrer dans 2017 avec ça. Sauf que février 2018, présence africaine me dit qu'il faut retravailler le livre. Sachant que j'ai déposé le livre le 6 janvier 2017. On me dit, ouais, il faut retravailler et tout. J'étais déjà en train de travailler. J'étais déjà bien avancée sur mon troisième bouquin. J'étais au Cameroun. Et elle me demande si je peux avoir ça à la fin du mois de février. Je dis, ouais, tranquille. Non, j'ai une page blanche. j'ai réussi à débloquer la page blanche en avril 2018 en me remettant dans une relation amoureuse. Au début, c'était en cherchant, j'ai trouvé un plan cul. Parce que voilà, je me suis dit peut-être l'énergie sexuelle, parce que je ne trouvais pas en fait. Voilà. Et oui, en effet, ça aide aussi. Il n'y a pas que le malheur de la déchirure amoureuse. Il y a aussi, refaire l'amour, avoir des orgasmes, voilà, ça rebooste un peu la machine créative. On a eu une histoire et j'écrivais. Et là, la réécriture a été un accouchement, mais très, très, très douloureux. Enfin, tu sais, mais j'ai jamais autant souffert pour écrire un livre. La réécriture, c'était... En fait, c'est devenu... La première version de ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. C'est devenu un roman dans le roman avec la réécriture. C'est devenu même plus radical avec la réécriture. Là, tu vas voir les N majuscules, les B minuscules, noir et blanc. C'était pas le cas en 2016. Les rappeuses, là, c'était pas le cas en 2016. En 2016, il y avait Charles Aznavour, il y avait Georges Brassens dedans. Ouais, comme citation. Il y avait Jean-Jacques Goldman.
Ça ne devait pas faire le même effet, c'est sûr.
Voilà. Parce que, mais il y a toujours, tu trouveras toujours des citations à propos avec le truc. Avec les citations de rappeuses, ce sera beaucoup plus compliqué. Au tout début, quand tu cherches une citation pour ponctuer ton paragraphe, tu auras toujours un mec blanc, cis hétéro dans ta tête, parce que c'est ce que tu as le plus entendu. Donc, là-bas, j'aurai ma chance et j'aurai mes droits, n'y va pas. La fierté est qu'ici, je n'ai pas. Là-bas, ben, tous ces trucs-là, il y a plein de chansons chantées par des hommes blancs cis hétéro qui vont très bien avec ce que je vis en ce moment. Mais ça, là, ça a été effacé de la version même de qui je suis. J'ai grandi avec le bouquin, mine de rien. Entre-temps, je me suis politisée, radicalisée. Ouais, là, la France qui tremble parce qu'elle pensait qu'il n'y avait que les Arabes, les musulmans qui se radicalisaient. Et, les femmes noires sont censées être gentilles, garder nos enfants. Mais non, 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 ah là là, mais qu'est-ce qu'elles nous font et je souffre en écrivant, juste même la forme et le fond, en fait. Parce que tu sais que, tu sais, c'est comme quand tu accouches un enfant, tu ne sais pas à quoi il va ressembler, tu ne sais pas où seront ses yeux, tu ne sais pas quoi. Enfin, mais il n'y a que toi qui dois faire la chose pour que ça ressemble à quelque chose, tu vois. Tu ne sais pas quel est le résultat attendu, mais tu sais que ce sera quelque chose de génial. Mais sans cette souffrance-là, il n'y aura pas cet enfant. Et bien, je trimais. Je ne savais pas ce qu'on attendait de moi en plus. Sauf qu'il y a eu le déclic avec la relation amoureuse. De « Ah oui, je vois maintenant. » J'ai réussi à voir le bouquin différemment, à prendre de la distance. C'est comme si on avait switché mon cerveau là. Et pour écrire ça, c'était chaud, de ces choses, de ces chaud. Et quand j'ai fini d'écrire, déjà, pendant que j'écrivais... je commençais à me sentir pas bien dans ma tête. Parce que, en fait, tu vas vraiment chercher de plus en plus loin dans ton ventre, dans ton vécu, les choses que tu voulais oublier. Donc, oula, tu rouvres des blessures. C'est pas bien. Même si j'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, heureuse et amoureuse. Tu vois, c'est dense, c'est. Ben, voilà. Mais il se passe quelque chose dans une zone de ton cerveau, là, c'est pas bien. Tu sens pas bien. Après, j'ai fini d'écrire. Là, c'est enfin fini. Tu vois, tu sens la fin. Et surtout que j'avais refusé toutes les missions freelance. Je suis freelance aussi, professionscribe.com, scribe, S-C-R-I-B-E.com. Et je refusais toutes les missions. Et là, c'est là que tu vois que les gens ont envie de travailler avec toi quand tu n'es plus disponible pour travailler. Donc je leur disais, attendez le 1er juillet, je suis disponible à partir du 1er juillet. Au début, c'était 1er juin, mais non, on va attendre 1er juillet. Le 29 juin, je crois que c'était un vendredi, je finis d'écrire dans la nuit du 28 au 29. Le 29... Je dépose le manuscrit chez Présence Africaine. Je fais imprimer, je dépose chez Présence Africaine. Le 30, il y a la marche des fiertés. Là, le 29 juin, je me sens tellement heureuse, libérée, délivrée. Le 30, il y a la marche des fiertés. Et moi, je vais pour le cortège anti-pinkwashing, capitalisme dans les fiertés et tout ça. Et le racisme pour la visibilité. Je marchais avec le cortège des... Il y a plusieurs associations... comme notamment Kitoko, qui avait organisé un cortège de tête de la marche de fierté. Ce n'était pas la partie fête, c'était la partie manif. J'y vais. Le 1er juillet 2018, un an jour pour jour avant mon arrivée au Canada, je vais voir Les Indestructibles 2 en avant-première dans le 16e. J'y vais. Le film est génial, j'adore. Il y a des storylines cuir que seuls les cuirs arrivent à voir. Les hétéros n'ont rien vu. J'adore le film. Et là, je vais après la projection des Indestructibles 2, me voici à Soupe-sur-Loing, à 14h. Me voici dans la chambre, dans mon lit. et je n'ai aucun livre à écrire. Enfin, si, tu as toujours plein de projets, mais j'ai plus de... Enfin, j'ai rendu le livre, ma vie peut commencer, ça c'est fait, je peux enfin pouvoir m'occuper de moi, en fait. Je ne sais même plus ce que je faisais avant d'écrire ce livre, en fait. Je ne sais plus ce qu'on fait normalement quand on n'est plus à 100% dans un truc. Et à ce moment-là, je sens une sorte de liquide noir. Enfin, une sorte, pas de liquide, une sorte de nuage mou, noir qui se répand dans ma tête. Et là, je me dis, ah, ça doit être la dépression postpartum. Mais tu te sens vraiment dans le négatif. Mais un truc, je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y a rien qui s'est passé vraiment de... Enfin, on n'a tué personne, tu vois, mais... Mais ça noircit dans ma tête, ça s'obscurcit, ça coule. Et je me sens pas bien. Je me dis que je vais rester au lit comme ça, je vais dormir. Ça ira bien, mieux demain. Et demain, ça va pas. Il y a tous ces clients-là qui veulent maintenant qu'on parle business. Mais moi, je veux juste que vous me laissiez tranquille. En fait, ça sert à rien. Et c'est ça le truc, c'est que ce qui se passait dans ma tête, c'est que tout ça ne sert à rien. Les gens continuent de mourir, que ce livre marche ou pas. Les gens continuent, on continue de les tuer.
Ben, ça sert à rien, le fait d'avoir écrit le livre.
Voilà, ça sert à rien de faire ces missions freelance. Ça ne va rien changer au monde. Ça, mais en fait, quoi que je fasse aujourd'hui, ça ne sert à rien. Hein, rien ne va changer. Le monde, c'est la merde. Ça sert et ça devenait, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, de la minute à la minute, là c'est depuis la fin des indestructibles, j'étais de nouveau destructible. Et comme j'avais déjà eu une dépression avant l'écriture de 9 histoires lumineuses, enfin pendant l'écriture même de 9 histoires lumineuses, bah je revoyais ces symptômes là. Moi je pensais que j'avais une dépression à l'époque parce que je n'étais pas moi, je n'étais pas sur mon chemin encore. Mais là, je suis sur mon chemin, les choses se passent, etc. Je suis en couple, ça se passe, enfin, plus ou moins. Et non, là, je suis toujours sujette aux dépressions. Ah merde, en fait, c'est un truc que j'ai... Il y a des gens qui ont des rhumes souvent, des états grippaux. Ben, celle-là, même quand les choses vont bien, ben, quelquefois, tu ne sais pas. Enfin, je devais être contente, j'ai rendu mon manuscrit et je l'adore. Enfin, là, c'est bon, je sais. Ça, c'était la version numéro 194. Elle est bien. Allez, là, c'est bon.
Ça, c'était il y a un an.
Ça, c'était l'été dernier. Ouais. Ah oui, ouais, ça fait un an. Et donc, j'ai commencé à sombrer dans la dépression. Ben, j'ai refait un suivi psychologique. Voilà comment, dans quel état, on se dirait que ça me fait du bien. J'ai envoyé chez la France, ça y est, je me sens mieux. Écrire tout ça, ça m'a remise dans un état mental... j'ai perdu en santé mentale. J'ai eu la chance de croiser la route d'une femme noire lesbienne psychologue qui m'a proposé ses services gratuitement. Comme quoi, il faut dire vraiment ce qu'on veut à l'univers. Et donc, tous les lundis, pendant une heure, je lui raconte ma vie et voilà. Je suis contente de partir, comme je t'ai dit, il faut recycler son truc. Je ne voulais pas quitter la France comme ça en me disant « je m'en vais comme lui », tu vois. Je voulais, enfin, je ne lui ai rien dit depuis là, depuis j'encaisse, je ne lui ai rien dit. Mais là, je m'en vais dans le livre, je n'ai pas pu dire parce que je n'étais pas encore, j'avais pas encore de réponse. La réponse, c'est le 8 juin que je l'ai eue.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le Canada alors?
Alors, on me souhaite de réunir autour de moi une équipe vidéo de tonnerre, mais de trouver le grand amour, d'avoir une agente, elle, je la cherche, je lui envoie des ondes comme ça là, l'agente qui est ma number one fan, les agents qui n'aiment pas ce que font leurs clients là, ma number one fan, et qui saura parler de moi mieux que personne, et qui aura une ambition mais de vénère quoi, et aussi d'avoir ça c'est un truc que je cherchais avant, j'hésitais avec pour la recherche de maison, d'appart là. Pendant longtemps je visualisais encore quand même un loft qui appartient à une meuf mais méga riche mais qui est jamais là, et pour des raisons fiscales il faut qu'il y ait quelqu'un dedans et je dois juste donner $150 de, ça veut dire quoi, 115 €, juste pour la forme quoi. Donc c'est un loft mais superbe, avec piscine végétale Et oui, notre relation est un peu ambiguë, donc voilà, c'est mi casa et sous casa. Il y a rémunération.
Tout est bien projeté.
En nature, ouais.
C'est bon ? Il y a des choses que tu voudrais dire qu'on n'a pas abordées ?
Ah ouais, j'ai trouvé une phrase récemment, je me suis dit que ce serait bien que je dise ça à la télé.
Mais là, c'est pas
attends,
la télé.
Attends, je vais la tester.
C'est pas la télé, mais tu peux essayer.
Ouais.
Ça crachouille encore.
Ah bon, c'est pas la télé ? Attends, c'était quoi ? Non, parce qu'on me demandait... Pourquoi tu veux partir ? Et je disais, mes ambitions, c'est le tout dernier Photoshop. C'est pour améliorer ma vie, là, ma carrière, ma vie personnelle, etc. Mes ambitions, c'est le tout dernier Photoshop. Et la France, c'est Windows 95. Donc, quelquefois, il faut juste changer d'ordinateur. Et bien, c'est vraiment comme ça que je vois même pas la France, même l'Europe, en fait.
Bah écoute, je te souhaite que le Canada soit ton super Photoshop.
Sur mon iMac dernier cri.
Jo, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était
Anne.
Un plaisir de te lire et de t'entendre. J'espère vraiment, vraiment que tous tes rêves que tu nous as énoncés vont se réaliser au Canada et plein d'autres choses.
Lisez, si tout le monde doit lire, pas forcément l'acheter, le faire tourner. Le lire.
Oui, l'acheter aussi. Oui, il faut le lire, il faut vraiment le lire parce que ça permet de...
En fonction des moyens, mais lisez-le. Ouais, c'était le but en fait. Les masses le lisent. Même si je me dis, ah là là, enfin pendant 2 semaines j'étais à fond. Hein. 2 semaines avant la sortie, oula, grosse angine, à fond, mais c'est psychosomatique.
Oui.
Ah là là, mais je ne me montre déjà pas en photo, en vidéo. Et là, je montre ma vie quoi. Les gens vont voir ma vie. Le paradoxe des artistes, quoi.
C'est exposé.
Ouais.
C'est exposé. Mais bon, en même temps, je pense que c'est vraiment, vraiment utile. J'espère que ça sera lu par beaucoup de gens parce que on peut passer en tant que blanc, on peut passer à côté en se disant bon, on connaît un peu tout ça. Des gens l'ont déjà entendu. Peut-être que moi, un peu plus que la moyenne déjà, j'étais sensibilisée, intéressée par ce sujet-là et j'en ai encore appris beaucoup. Donc j'encourage tout le monde à le lire. Voilà, c'est pas un livre chiant à lire parce qu'il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment très drôle.
Moi, je ne souris pas
facilement en lisant, mais vraiment, j'ai souri quasiment tout le long parce qu'il y a vraiment des histoires que tu racontes d'une façon très, très drôle. Et en même temps, on découvre aussi tout un tas de choses et de comportements que même si l'on ne se... Je réinsiste toujours là-dessus. Même si en tant que blanc, on ne se croit pas raciste et qu'on ne croit pas perpétuer des comportements qui peuvent être mal perçus ou douloureux ou racistes, il y a toujours des choses qui traînent parce qu'on a un héritage et qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience, nous aussi.
Peut-être qu'on s'en rend compte en me voyant moi-même découvrir mes privilèges, tu vois. Privilèges de mince, privilèges de non-trans. Enfin, je suis encore en questionnement par rapport au genre. Mais oui, quand tu ne subis pas la transphobie, tu as vu comment dans le livre, comment je cherche des témoignages de femmes trans. Ils ont dit, mais non, tu viens pas comme ça. Là. Oui, je cherche des personnages pour un livre, je vais écrire sur les femmes trans ou des témoignages de femmes voilées. Ben voilà, c'est quand tu ne portes pas le voile, mais tu es en situation d'oppression même. Tu t'en rends pas compte. Il y a des choses que tu...
C'est ça. D'ailleurs, tu racontes ça avec beaucoup d'humilité parce que tu pourrais simplement raconter les choses douloureuses que tu as. Mais tu racontes aussi quand tu te retrouves en position toi-même de ne pas forcément comprendre l'angle de vue de l'autre.
Ouais.
Et ça, je trouve ça vraiment intéressant.
Et ça s'est fait dans l'écriture. Donc, j'ai pas écrit ce livre en me disant « je vais raconter ça ». C'est juste que j'ai écrit ce livre en me prenant des claques, des portes de personnes voilées, de personnes trans, alors que moi, je voulais une sorte de diversité. Pluralité des oppressions et pas seulement celles qui me concernent. Et en effet, dans certaines situations, je suis en situation je suis celle qui oppresse, opprime. Enfin, je suis.
On peut avoir des comportements maladroits qui ne sont pas intentionnels et qui se retrouvent à être.
Et même, toujours est-il que demain, inconsciemment, je vais les reproduire. Non, en fait, je sais pas, pour moi, ça soulignait mon propos. Ça m'a montré que voilà à quel point c'est indécrottable. Voilà, parce que les gens pensent que c'est toujours quelque chose de conscient, le racisme, c'est Marine Le Pen. Voilà à quel point c'est dans les médias, c'est dans l'air qu'on respire. Il faut le faire de façon consciente, systématique. On ne le fera jamais naturellement. Moi, je sors d'une formation pour déconstruire l'intériorisation de la négrophobie. Donc, je dois faire une formation pour apprendre à faire confiance aux personnes noires. Non, voilà à quel point ça doit être... conscient, ce ne sera pas inconsciemment en fait. C'est, Ça doit être désappris tout le temps, continuellement.
Pour désapprendre, il faut aussi qu'il y ait un souhait de désapprendre.
Voilà, exactement.
Et il faut prendre conscience que l'on a quelque chose à désapprendre,
exactement.
Et ne pas le nier.
Exactement.
Pour pouvoir avancer, pour que tout le monde puisse avancer. Eh bien, nous allons terminer sur ces bonnes paroles.
Merci beaucoup.
Avancer.
Je vais toucher le micro.
Oula. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Augustine. Mmh. Très bonne continuation.
Merci.
À bientôt, j'espère. Au revoir.
Merci, bisous, bisous.
Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.